Voici les deux textes liturgiques pour ce 15e dimanche après la Pentecôte, l'épître tirée de saint Paul aux Galates. Mes frères, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et nous portant mutuellement envie. Mes frères, si quelqu'un est tombé par surprise dans quelque péché, vous qui êtes spirituel, relevez-le avec un esprit de douceur, prenant garde à vous-même, de peur que vous ne tombiez aussi en tentation. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la parole de Christ, car si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non en se comparant à autrui, car chacun aura son propre fardeau à porter, que celui qu'on en instruit fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se rit pas de Dieu. Et ce qu'on aura semé, on le moissonnera. Celui qui sème dans sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème dans l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons le temps, faisons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. On se lève pour l'évangile, continuation du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendait à une ville appelée Naïm, et plusieurs de ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Comme il arrivait près de la porte de la ville, il se trouva qu'on emportait un mort, fils unique de sa mère, et celle-ci était veuve, et beaucoup de gens de la ville l'accompagnaient. Le Seigneur, l'ayant vue, fut touché de compassion pour elle, et lui dit: ne pleurez pas. Et s'approchant, il toucha le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtèrent. Et il dit: jeune homme, je vous le commande, levez-vous. Et aussitôt, le mort se leva sur son séant et commença à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu en disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Asseyez-vous. Voici quelques annonces. D'abord, avant que j'oublie. Sur la petite route qui est juste en bas, juste après avoir passé le groupe de maisons ici, sur la droite, il y a un champ qui est ouvert avec un endroit où vous pouvez passer avec la voiture. Vous pouvez vous garer là aussi, surtout quand il pleut et qu'on ne peut pas accéder au parking qui n'est pas encore empierré au-dessus. Donc vous pouvez vous garer là, le paysan gentiment met ce champ à notre disposition. Je vous recommande à vos prières les deux retraites que je vais prêcher là maintenant pour les deux premières semaines de septembre pour 13 personnes. Priez bien pour ces personnes qui vont suivre la retraite. Il n'y aura donc pas de cours pendant 2 semaines, de cours du mercredi, évidemment à cause des retraites. Donc le prochain cours aura lieu le mercredi 18 septembre. Aussi, je voudrais rattraper une hérésie que j'ai dit dimanche dernier. Le matériel, rassurez-vous seulement. Et personne ne l'a remarqué. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ou vous ne connaissez pas votre catéchisme, ou vous dormez tous pendant le sermon. J'ai parlé dimanche dernier, j'ai donné un exemple d'un paroissien à New York qui était avocat et qui avait dû changer de travail à cause des mensonges réguliers dans le bureau d'avocat et dans les cours de justice. Et j'ai dit que c'était un péché grave, évidemment, contre le septième commandement. En fait, le péché contre de, tu ne mentiras, le commandement tu ne mentiras pas, ce n'est pas le septième, mais le huitième. Le septième, c'est tu ne. Je ne me trompe pas cette fois-ci, tu ne tueras pas. Non, tu ne voleras pas, pardon. Puis tu ne mentiras pas, le huitième. Attention donc, pour ceux qui viennent à la messe en semaine, à Padiès, à cause des retraites, il n'y aura cette semaine qu'une seule messe. À Padiès oratoire le lundi, donc demain à 8h. Ensuite, ce sont les horaires de retraite. Vous pouvez bien sûr, ceux qui le veulent, qui viennent à la messe en semaine, aller suivre les messes aux retraites à Récombis, au gîte, là où je prêche, avec les horaires de retraite, attention. Donc, messe tous les jours à 7h30 du mardi au samedi, sauf le jeudi, messe à 7h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, Le texte liturgique d'aujourd'hui, les textes liturgiques ont une influence, ont une importance fondamentale. Notre Seigneur va donner l'exemple d'une résurrection. L'Évangile parle de trois résurrections. Il y en a eu beaucoup plus, certainement. Saint Jean nous prévient à la fin de l'Évangile selon Saint Jean qu'il y a beaucoup de choses que notre Seigneur Jésus-Christ a faites qui ne sont pas dans l'Évangile. Et il dit même s'il fallait, évidemment c'est une façon de parler, s'il fallait écrire tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pendant sa vie sur terre, eh bien le monde ne pourrait contenir tous les livres nécessaires pour expliquer ce qu'il a fait. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans l'Évangile. Il y a trois résurrections dans l'Évangile. La première, c'est la résurrection de la fille du chef de la synagogue, qui s'appelait Jaïr. Et notre Seigneur va la ressusciter d'entre les morts. La deuxième résurrection, c'est la résurrection qui est mentionnée aujourd'hui. Le fils de la veuve de Naïm. Et la troisième résurrection, c'est la résurrection de Lazare, Saint Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe. Nous allons voir que chacune de ces résurrections comporte des détails particuliers qui ne nous frappent pas du tout, mais qui frappent les pères. Encore une fois, ce sont les pères de l'Église, rappelez-vous, je vous l'ai souvent expliqué, ce sont les pères de l'Église qu'il nous faut suivre pour avoir l'interprétation donnée par l'Église. Le prêtre doit faire extrêmement attention, pas seulement le prêtre, tous les fidèles doivent faire extrêmement, extrêmement attention de ne pas suivre ses idées personnelles sur le sujet. Pablo, je vous demande de faire un petit peu attention, de ne pas laisser l'enfant courir parce que ça distrait un peu tout le monde. Et moi aussi. Hein, merci. Et donc, nous allons commencer par voir la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Alors, il y a toute une série de détails. Vous allez voir comment les pères, justement, utilisent ces détails pour monter d'un niveau matériel au niveau spirituel. Derrière le sens historique, le sens positif du texte, il y a toujours quelque chose qui est caché. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour cette raison, va parler en parabole. Alors, qu'est-ce que font remarquer les pères? Donc, la personne qui vient de mourir, ça je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, la personne qui vient de mourir représente la personne qui vit dans le péché. Elle est morte spirituellement. Vous savez qu'il y a trois sortes de morts. Il y a une mort physique, on va tous passer par là. Le passage de la mort physique, c'est la séparation entre le corps et l'âme. Puis il y a une mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est celle dont il est question là. La mort spirituelle, c'est le passage de l'état de grâce à l'état de péché mortel. Puis la mort éternelle, la plus grave des trois. La mort éternelle, c'est le passage de la vie ici-bas à la vie après la mort en enfer. Une fois qu'une personne est tombée en enfer, Dieu ne peut plus rien faire. Donc la résurrection du fils de la veuve de Naïm ne représente pas la mort éternelle, qui est définitive, mais la mort spirituelle. Passage de l'état de grâce à l'état de péché mortel. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur? Il va d'abord, il y a tout un cortège qui s'est formé, à sortie de la ville, cette foule nombreuse suit le cercueil qui est porté par quatre porteurs. Que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il arrive dans la ville et première chose, il va arrêter tout l'ensemble du cortège. Qu'est-ce que ça représente? Le cortège qui suit le cercueil en bois, on va expliquer pourquoi c'est très important, cercueil en bois contient le cadavre de la personne qui vient de mourir. Ça représente le pécheur qui s'est donné complètement au démon, qui suit le démon. Donc il est porté par le démon, on ne peut rien faire par lui-même. Et notre Seigneur Jésus-Christ va arrêter non seulement le cercueil, mais toute la procession, tout le cortège. Cela montre que lorsqu'on vit dans le péché mortel jusqu'au cou, il faut d'abord commencer par arrêter de vivre dans le péché. Ça ne se fait pas en 5 minutes, il faut des grâces spéciales pour cela. Lorsque quelqu'un est en état de péché mortel, il ne peut pas utiliser la grâce sanctifiante, puisque la grâce sanctifiante, c'est la charité, est détruite par le péché mortel. Mais il peut utiliser certaines grâces actuelles pour nous sortir déjà du chemin. Il faut commencer par s'arrêter sur le chemin qui mène en enfer. Et par la force des choses, en arrêtant le cortège, Dieu va arrêter les porteurs, quatre porteurs. qui porte le cercueil. Le cercueil représente la vie en état de péché. Et donc, il va arrêter les porteurs, et les porteurs représentent, d'après les pères de l'Église, soit les concupiscences, soit de façon peut-être plus réaliste, représentent les blessures de l'âme. L'âme étant blessée, peut plus se porter par elle-même. Elle est portée. Et ces blessures, vous les connaissez bien. Donc, il y a la blessure d'ignorance, de faiblesse, de malice et concupiscence. Quatre blessures, quatre porteurs. Et donc, lorsque Dieu arrête les quatre porteurs, il va donner déjà, par certaines grâces actuelles, à cette personne qui est en train de mourir spirituellement, qui n'est pas encore complètement morte. Si elle était complètement morte, elle serait déjà en enfer. Elle est en train de mourir. Il va donner d'abord des grâces particulières pour arrêter ses blessures, bloquer ses blessures. Pour bloquer la blessure d'ignorance, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut la prudence. Pour bloquer la malice, il faut la justice. Pour bloquer la faiblesse, il faut la force. Et pour bloquer les concupiscences, la concupiscence, il faut la tempérance. Et si vous voulez être complet, puisqu'il y a trois concupiscences des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil, eh bien il faut encore d'autres vertus particulières. Il faut l'obéissance pour lutter contre l'orgueil. Il faut la pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux. Et il faut la chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair. Et avec ces sept vertus, le cortège s'arrête. Cortège s'arrête, et à ce moment-là, qu'est-ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ ? L'Évangile fait bien marquer, il touche le cercueil. Il touche le cercueil, et en touchant ce cercueil, il va, disent les pères, faire reverdir le bois du cercueil. Le bois du cercueil qui reverdit représente la croix. En touchant le cercueil, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, va appliquer les mérites de sa passion à la personne qui est en mauvais état sur le plan spirituel. Et du coup, par justement cette grâce de la conversion que Dieu va donner à ce moment-là, Dieu peut donner l'ordre, et à ce moment-là seulement, je te l'ordonne, lève-toi. Et le mort se lève. Vous voyez, ces choses sont extrêmement importantes. Pour nous faire comprendre quel est le point clé qu'il faut absolument mettre dans notre esprit, c'est que la mort spirituelle est beaucoup plus grave que la mort physique. Le monde moderne se préoccupe énormément de la mort physique, ne se préoccupe pas du tout de la mort spirituelle. La plus grave des morts, c'est laquelle ? C'est la mort éternelle, le passage en enfer, la chute en enfer. Une fois qu'on est dans cette mort, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. On est complètement hors de la miséricorde du bon Dieu. Dieu lui-même ne peut pas sortir quelqu'un de l'enfer, c'est impossible. Mais, par contre, il peut sortir quelqu'un qui est en mort spirituelle, qui est en état de péché mortel. Qu'on appelle la résurrection spirituelle. Donc deux points importants. Premier point, la mort spirituelle est bien plus grave que la mort physique. Deuxième point, la résurrection spirituelle est bien plus importante, bien plus glorieuse, bien plus grande que la résurrection physique. Et on est influencé, on est en admiration devant une résurrection physique. Imaginez tous ceux qui étaient à côté de ce cercueil. Du fils de la veuve de Naïm, qui est porté en terre. Il y a une foule importante, dit l'Évangile. Mais quand ils voient notre Seigneur Jésus-Christ qui arrête le cercueil, ils ont dit de dire, mais de quoi il se mêle. Et quand il a dit, mort, lève-toi, ils ont dû regarder, ils ont dit, il est fou, c'est pas possible. Et le mort se lève. C'est ce qu'on appelle une résurrection spirituelle. Et dans les textes des pères de l'Église, que j'ai lu ce matin, texte des matines, qui explique l'Évangile du jour, il est bien expliqué par les pères que les résurrections spirituelles sont extrêmement nombreuses. Il y a des millions de résurrections spirituelles. Et on n'y pense pas. Évidemment, quand on voit, si vous voyez, vous êtes témoin d'une résurrection physique, un mort qui sort du tombeau, c'est impressionnant. Mais est-ce qu'on réalise qu'une résurrection spirituelle, c'est encore plus grand? C'est encore plus beau. Il y a même des pères qui vont dire... Sortir quelqu'un du péché mortel, c'est un miracle plus grand que la création du ciel et de la terre. Alors on pense aux résurrections physiques et on ne pense pas aux résurrections spirituelles. À commencer par nous. Combien de fois le bon Dieu m'a ressuscité spirituellement ? Combien de fois j'étais mort et j'étais porté au tombeau, j'étais porté au cimetière,
dans le cercueil parce que j'étais dans le péché mortel, j'avais perdu la grâce du bon Dieu. Et le bon Dieu a arrêté le cercueil et m'a donné l'ordre, lève-toi. Résurrection spirituelle. Il faut y penser. Et encore une fois, c'est des choses que les gens du monde sont incapables de comprendre. Est-ce qu'on réalise à chaque fois qu'on rentre au confessionnal en état de péché mortel et que Dieu, utilisant le prêtre comme un instrument, nous dit « Allez en paix, vos péchés sont pardonnés, je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est une résurrection spirituelle, un miracle qui est plus grand que la création du ciel et de la terre. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on pense à remercier le bon Dieu pour ces choses-là? Encore une fois, pensez, l'exemple que j'ai déjà donné, je crois, dimanche dernier, pensez à tous ceux qui ne peuvent pas faire ça. Un protestant ne peut pas aller au confessionnal. Un païen ne peut pas aller au confessionnal. Il peut rentrer dans le confessionnal. Je peux même lui donner la formule de l'absolution. Si je ne sais pas qu'il est païen, mais rien ne se passera. Parce qu'il n'y a pas le baptême. Il faut que la porte de l'âme soit déjà entrouverte par le baptême pour que le prêtre puisse appliquer les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ par le sacrement de pénitence. Et pour pouvoir appliquer justement cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le baptême. Donc pensez à ces millions de personnes dans le monde qui ne pourront jamais bénéficier de cette résurrection spirituelle dont vous et moi, nous pouvons bénéficier tous les jours. Des grâces extraordinaires. Vous voyez, on ne réalise pas ces choses-là parce que c'est des choses qui ne se voient pas. On voit une résurrection physique, on ne voit pas évidemment une résurrection spirituelle. Est-ce qu'on y pense? Si vous voyez l'état d'une âme en état de péché mortel, rappelez-vous l'exemple que donnait toujours le Saint-Curé d'Ars aux enfants du catéchisme, un cadavre en décomposition, un cadavre de chien en décomposition sur la place du village en plein cagnard du mois d'août. Eh bien, imaginez une âme qui rentre dans le confessionnal toute noire, noire de péché. Le prêtre donne l'absolution et s'il y a les conditions d'une absolution valide, c'est-à-dire un vrai prêtre, la formule d'absolution et aussi les conditions nécessaires pour pouvoir appliquer cette absolution sur l'âme, savoir la contrition, le ferme propos d'amendement, le ferme désir de changer ce qu'il faut changer pour ne pas recommencer, la contrition et l'accusation et la réparation. L'âme ressort comme un, encore une fois pour reprendre la même comparaison du Saint-Curé d'Ars, comme un diamant au soleil, sous les feux de la lumière. On ne réalise pas ces choses-là. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils considèrent que c'est un petit peu normal. Je rentre au confessionnal, le prêtre doit être là pour m'attendre. Et son travail, c'est de donner l'absolution. Je me mets à genoux, je dis mes péchés et je reçois l'absolution, puis 2 minutes après, on a oublié. Est-ce qu'on réalise, encore une fois, le miracle dont nous avons fait l'objet? Est-ce qu'on réalise le degré d'amour qu'il faut de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour une âme, afin que cette âme puisse recevoir la grâce de l'absolution? J'ai connu dans ma vie de prêtre, c'est pas très fréquent, mais j'ai rencontré ça en retraite, des gens qui n'arrivaient pas à avoir la contrition. N'arrivaient pas à avoir la contrition, même imparfaite, regrette ses péchés par peur de l'enfer. Et qui me disait, monsieur l'abbé, j'ai envie de me confesser, je sais que je dois me confesser, je ne me suis pas confessé depuis 20 ou 30 ans, je sais que je dois me confesser, mais j'arrive pas à regretter mes péchés. Et il faut encore beaucoup prier pour ces gens-là qui n'ont pas reçu cette grâce. Si vous et moi, nous avons reçu la grâce de la contrition, il faut se rappeler que c'est un don de Dieu. Rappelez-vous le conseil de saint Paul dans l'épître aux Galates d'aujourd'hui. Que celui qui est debout, qui prenne garde de ne pas tomber. Sans la grâce de mon Dieu, attention. Il n'y a pas une seule bêtise qu'a fait le voisin que je ne suis pas capable de faire 10 fois plus rapidement que lui. Alors, le Dieu, il faut aussi comprendre ça, Dieu a vraiment pouvoir sur tous les péchés à condition qu'on les regrette. Et c'est pour ça, nous disent les pères, qu'il y a eu 3 résurrections qui sont dans l'évangile. Et il y a des différences entre ces 3 résurrections. La première, encore une fois, c'est la fille, la petite fille, du chef de la synagogue. Elle vient de mourir, elle est encore sur son lit, dans sa chambre, sur lequel elle vient de mourir. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive avec 3 disciples, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, 3 apôtres. Et il la ressuscite, elle sort directement du lit sur lequel elle vient de mourir, elle est rendue à sa mère, rendue à ses parents. Qu'est-ce que ça représente? Les pères de l'Église expliquent, ça représente le péché mortel par pensée. Dieu a pouvoir sur le péché mortel par pensée. Mais le deuxième miracle, la résurrection du Fils de la veuve de Naïm qu'on explique aujourd'hui, il y a une différence. La personne est morte, elle est mise dans le cercueil est sur le chemin du cimetière. Donc je dirais que c'est plus grave. Et ça représente cette fois-ci le péché mortel par action. Dieu a pouvoir aussi sur le péché mortel par action. Troisième miracle, cette fois-ci, c'est le miracle de la résurrection de Saint Lazare. Cette fois-ci, il est mort, il est mis dans le cercueil, il est porté au cimetière, il est mis dans la tombe, la pierre est refermée, et en plus, 4 jours se sont passés avec la chaleur de l'été, le corps est déjà en décomposition. Eh bien, Dieu a encore pouvoir dans ce cas-là. Ça représente cette fois-ci le péché mortel qui est passé à l'état de vice. On appelle ça le péché des habitudinaires. Quand j'ai vécu dans le péché mortel pendant longtemps, au bout d'un certain temps, ça devient un vice. C'est-à-dire que les racines du péché vont s'enfoncer beaucoup plus profondément dans l'âme. Dieu a pouvoir sur tous les péchés à condition qu'on les regrette. Il faut les regretter. Il faut l'accusation. Il faut une douleur de ses péchés. Il faut le ferme propos d'amendement. Même si je sais que malheureusement, connaissant ma faiblesse, je vais sans doute retomber. À partir du moment où je regrette mes péchés, je suis à genoux devant le bon Dieu, devant son ministre, pour dire, voilà, je vais tout faire pour ne pas retomber, même si je sais que malheureusement, peut-être, je vais retomber très vite, Dieu pardonne. Mais il faut ce regret. Il faut l'accusation, il faut la réparation. Et à ce moment-là, le bon Dieu pardonne. Et notez que lorsque le bon Dieu pardonne, il oublie. Chose que nous sommes incapables de faire. Les pères de l'Église font remarquer qu'un homme peut pardonner une offense. On ne peut pas oublier l'offense, c'est impossible. Sauf grâce extraordinaire du bon Dieu. On est incapable d'oublier une offense qui nous a été faite, surtout une offense grave. Dieu, non seulement pardonne les offenses graves qui ont été faites contre lui, mais il les pardonne, il les oublie. Il les oublie. Il faut méditer sur ces pertes de mémoire du bon Dieu qui sont bien pratiques, il faut bien nous esquiller. Dieu, dans sa miséricorde, oublie les péchés si on les regrette vraiment du fond du cœur. Et on le voit très bien, lorsque ces résurrections sont faites, que ce soit celle de la fille du chef de la synagogue, du fils de la veuve de Naïm ou de Saint Lazare, à chaque fois, la résurrection est complète. On retourne à la vie. Et regardez encore une fois, comprenez la miséricorde incroyable du bon Dieu. Le bon Dieu pourrait nous dire, voilà, péché mortel, je t'absous une fois, pas deux. Tu viens au confessionnal, je te donne l'absolution par l'intermédiaire du prêtre, et c'est fini, terminé, reviens plus. Non. 2 minutes après, vous commettez le même péché, la porte du confessionnal est toujours ouverte. Mais je viens de promettre au bon Dieu de ne pas recommencer, et je suis retombé. La porte est toujours ouverte. Mais monsieur l'abbé, depuis ma dernière confession, j'ai tous 5 minutes et je suis retombé. La porte est toujours ouverte. Non seulement la porte du confessionnal, mais aussi la porte de la miséricorde infinie du bon Dieu pour le pécheur repentant. Et dans ce cas-là, le bon Dieu pardonne. À condition qu'on regrette. À condition, c'est l'exemple que je donne toujours parce que ça aide les gens à comprendre. Imaginez un cavalier qui tombe de cheval. Qu'est-ce qu'il doit faire? Remonter sur cheval. Ah, mais je vais peut-être retomber dans 5 minutes. Eh bien, il va remonter sur cheval de nouveau. Et c'est ce que disent les pères. C'est une phrase aussi qu'on trouve chez certains docteurs que j'aime beaucoup, qui explique bien aussi ce qu'il faut comprendre. Les pères de l'Église, les docteurs expliquent que Dieu a plus d'amour pour un soldat qui tombe souvent et qui se relève à chaque fois que pour un soldat qui tombe jamais. Strictement parlant, je dis bien strictement parlant, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. On peut presque dire que Dieu a plus d'amour d'un certain côté pour un gros pécheur qui regrette ses péchés que pour sa mère, dans un certain sens. Pourquoi ? Parce que la mère du bon Dieu, la très sainte Vierge Marie, elle est immaculée conception, elle n'a jamais péché. Strictement parlant, elle n'a pas besoin de la miséricorde du bon Dieu parce qu'elle ne l'a jamais offensé. Bon, bien sûr, au sens théologique du terme, la très sainte Vierge Marie avait besoin, même si elle n'a jamais péché, elle avait quand même besoin d'utiliser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir monter au ciel. C'est évident. Pourquoi ? Parce que les portes du ciel étaient fermées pour tous les hommes, y compris pour la Sainte Vierge. La Sainte Vierge Marie est immaculée conception, elle n'a jamais péché, mais elle a dû utiliser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance de Dieu, pour monter au ciel avec son corps et son sang le 15 août, fête que nous venons de célébrer avec, j'espère, beaucoup d'amour du bon Dieu. Voyez donc, mes bien chers frères, ces choses sont très importantes pour ne jamais, 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 jamais nous décourager. Parfois, les gens me le disent au confessionnal. Monsieur l'abbé, je suis un gros pécheur. Qu'est-ce que je dis? Bienvenue au club. C'est ce que je leur dis. Bienvenue au club. Ça veut dire, le confessionnal est fait pour ça. Le confessionnal est fait d'abord pour les gros pécheurs. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément. Je ne suis pas venu pour les malades, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Donc d'un certain côté, deux pécheurs devant le bon Dieu, un gros pécheur et un petit pécheur, le gros pécheur est obligé d'utiliser davantage la miséricorde du bon Dieu que le petit pécheur. Et Dieu est obligé, en tant que Dieu, d'appliquer davantage de grâce sur l'âme du gros pécheur que sur l'âme du petit pécheur, c'est du bon sens élémentaire. Et ceci est représenté, mes bien chers frères, justement par ces trois résurrections que j'ai essayé de vous expliquer. Alors ne nous décourageons jamais, même si c'est pas facile tous les jours, ne nous décourageons jamais. Et passons par celle qui est à la porte du confessionnal, il ne faut pas oublier quelqu'un à la porte. Hein. Le bon Dieu a mis quelqu'un à la porte du confessionnal. C'est quelqu'un qui est à la porte du confessionnal, c'est la très sainte Vierge Marie. Elle est toujours là. Et elle va aider le pauvre pécheur qui a peut-être un peu de honte, et je peux comprendre, à accuser ses péchés, qui n'ose pas rentrer. Parce qu'il est déjà rentré il y a quelques jours et qu'il est retombé, alors il a peur de revenir de nouveau et d'être un hypocrite devant le bon Dieu. Et qu'est-ce que va faire la très sainte Vierge Marie? La très sainte Vierge Marie, si vous la priez, elle va vous prendre par la main et vous amener au confessionnal. Et puis elle sera même derrière votre dos au confessionnal pour vous rappeler peut-être certains péchés que vous avez oubliés. Donc passons par la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, elle est la gardienne du confessionnal. La gardienne du confessionnal, celle qui nous aide à avoir de bonnes confessions. Et comme la très sainte Vierge Marie, n'oubliez pas, c'est elle qui est médiatrice de toutes les grâces. Donc la grâce de l'absolution que vous recevez au confessionnal, mes bien chers frères, vous la recevez par la très sainte Vierge Marie. Dieu va utiliser la Sainte Vierge et le prêtre. La très sainte Vierge Marie d'abord, puis le prêtre par l'absolution pour pouvoir pardonner les péchés. Il utilise les deux choses. Et au confessionnal, vous avez les deux. Vous avez la très sainte Vierge Marie et vous avez le prêtre. À utiliser ces dons extraordinaires, mes bien chers frères, ces dons extraordinaires que le bon Dieu nous a donnés pour ne jamais, jamais, jamais nous décourager. Certainement, on peut dire que les péchés les plus graves, c'est les péchés contre l'espérance. Ce ne sont pas les péchés les plus graves, strictement, théologiquement parlant, ce sont les péchés les plus dangereux. Les péchés les plus dangereux, c'est les péchés contre l'espérance. Le péché de désespoir est tellement grave qu'il est placé dans la catégorie, dans le catéchisme, parmi les péchés contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire un péché qui est impardonnable tel tant qu'on reste dans cet état de péché. Le désespoir de son salut. Le désespoir de son salut, c'est peut-être le péché le plus dangereux pour nous. Quand on est tellement découragé par les péchés qu'on renouvelle si souvent, hélas, qu'on n'ose même plus se présenter devant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi bête qu'un malade qui dirait « Je suis trop malade pour aller voir le médecin. Je suis trop malade pour aller frapper à la porte de l'hôpital. » Bien, justement parce qu'on est malade, il faut aller voir le médecin. Justement parce qu'on est très malade, il faut aller frapper à la porte de l'hôpital spirituel. Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.